Melody, la radio vintage forever.
Il a grandi en Bretagne entre la mer et le silence des ports. Un jour, enfant, il découvre Johnny Hallyday et sa vie bascule. Des années plus tard, un karaoké à Lannion, quelques galas, puis la France, un incroyable talent vont changer sa vie. De l'ombre à la lumière. Et bien aujourd'hui, il poursuit son chemin avec un nouvel album et une tournée hommage, et également avec ses chansons. Jean-Baptiste Guégan, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci. Alors quand on vous entend chanter, on va tout de suite parler, voilà, c'est la même voix. On se dit, tiens, il y a quelque chose de Johnny, mais derrière cette voix, il y a surtout eh bien, une voix humaine, il y a quelqu'un derrière cette voix. Est-ce que votre vie a dépassé les rêves que vous faisiez enfant avec cette voix et ce talent que vous avez depuis?
Oui, ça a bien dépassé même, oui, bien sûr. Mais moi, des fois, je me réveille comme ça et je me dis, waouh, quand même, j'ai cette chance de faire ce beau parcours-là en ce moment. Et je me dis, pourvu que ça dure.
Ouais, pourvu que ça dure. Vous sortez votre album De l'ombre à la lumière. Est-ce que, voilà, on se dit, c'est sa vie. Tout a commencé, tout est parti, tout s'est embrasé à la disparition de Johnny.
Oui, c'est vrai. Ça aurait pu faire un pétard mouillé aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'était qui tout double, ça passe ou ça casse, quoi. Alors, c'est vrai que quand j'ai participé à la France à l'incroyable talent, notamment, Johnny, ça faisait un an qu'il était déjà décédé. Mm-hmm. Et donc, c'était pas facile de convaincre les gens, quand même, voilà, que j'étais pas là pour le remplacer. On sera pas là pour remplacer le taulier, personne ne peut le remplacer. Et moi, j'arrive là avec mes cordes vocales, et puis voilà, je montre ce que je sais faire. Et c'est passé. Donc voilà, j'ai eu cette chance.
Vous savez, quand on vous écoute et avec la réponse que vous venez de me faire, souvent les auditeurs de Mélodie nous disent que pour nous, Johnny n'est pas mort. Il ne sera jamais remplacé, Johnny, finalement. Il est toujours là.
Il est toujours là, oui.
Toujours
il restera là, oui.
Ouais, même pour vous encore dans votre...
Moi, sur scène, il est tout le temps là. Il fait partie de ma vie entière. Entièrement, oui. Mmh. Oui, ouais. Et quand, avant de monter sur scène, il est là. Je sais qu'il me regarde, là.
Dans le halo du projecteur, j'aime bien cette expression. Quand vous réalisez ce rêve d'enfant de chanter, voilà, de monter sur scène, peut-être que vous avez, je vais vous poser la question, le sentiment d'être arrivé au bout de vos rêves. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il reste des rêves à réaliser dans ce métier, en tant que chanteur, en tant que showman, parce que vous remplissez les zéniths, on va y revenir. Il vous reste des rêves à réaliser, Jean-Baptiste ?
Je pense que oui, il y a encore, la mission n'est pas terminée.
Ouais.
Il me reste beaucoup de choses à faire. Et j'ai encore, tant qu'il me reste l'envie de le faire, je continuerai, bien sûr.
L'envie d'avoir envie.
C'est ça.
Et quand on touche son rêve comme ça, qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là? Quand vous avez commencé à sentir que bien, voilà, le public vous aimait pour qui vous êtes, et aussi pour retrouver cette petite magie, cette petite voix qui...
Mais c'est ça qui n'a pas été facile quand même de faire comprendre aux gens que... Parce que quand j'ai réussi à créer, à avoir été adoubé déjà du public à l'IDESC, et en plus d'avoir créé aussi mon propre public avec mes chansons, et les deux réunis aujourd'hui ne forment plus qu'un. Et ils s'entendent même très très bien, et puis ça donne ce qu'il y a sur scène, cette magie du public qui est là et qui je dirais ils sont c'est ça ma mission, c'est que les gens aient la banane, qu'ils oublient pendant 2 heures de temps les malheurs du quotidien, c'est tout. Le reste, moi, je suis content quand ils sont heureux.
Et est-ce que c'est pas aussi votre humilité, puisqu'on vous entend souvent dans les interviews dire voilà, moi je suis moi, je fais mes chansons, j'aime ça, j'aime le rock'n'roll. C'est pas cette humilité qui a touché les gens également?
Je pense, oui. Je pense que c'est ça. Je pense que oui. Et puis j'ai toujours, je suis resté le même. D'ailleurs, c'est un titre de mes chansons. Mais non, j'oublie pas d'où je viens. Ça, c'est important. Je pense que les gens, ils l'ont bien compris.
Ouais. Puis on va repartir là. On va retracer un petit peu votre parcours. Vous êtes. Il y a une date qui est marquante. C'est 1992. Parce que les rêves, ça commence parfois tôt. En 92, vous assistez à Bercy à un concert de Johnny. C'est votre papa qui vous y amène, c'est ça?
Oui.
Et vous ne deviez pas y aller à la base, ce que j'ai noté.
Normalement, il devait aller avec un copain à lui, mais bon, il s'est désisté. Et puis, du tout compte fait, il m'a emmené à Bercy voir Johnny Hallyday. Et il ne m'a pas dit jusqu'à ce qu'on arrive à Bercy. Il m'a pas dit qui c'est qu'on allait voir.
Ok.
Quand je l'ai appris là-bas, quand je suis rentré dans la salle, j'ai fait « waouh ».
Quand vous le voyez descendre.
Ce monstre-là, oui. Oui, enfin, j'en ai pris plein la tronche, là, oui, c'était vraiment... Et on a 9 ans, on se dit, waouh, comment est-ce qu'un mec comme ça, tout seul, peut faire vibrer autant de monde? C'était vraiment un showman extraordinaire. Et moi, je me suis dit, dans ma vie, je me suis dit, waouh, oh, je veux faire ça un jour.
Voilà, vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus derrière ce spectacle. Ça déclenche, c'est la date fondatrice de « je veux être sur scène et je veux chanter un jour ».
Bien sûr, ouais, c'est ça en fait, c'est l'élément déclencheur depuis le début, oui.
Et vous écoutiez ces chansons, je crois, dans la voiture, de ce que j'ai pu entendre.
Oui, quand on partait en vacances de temps en temps, dans la voiture, on mettait des cassettes audio. mes parents étaient très nostalgiques quand même à cette époque-là. Il y avait beaucoup les chansons des années 60, 70, on écoutait ça.
Ok.
Oui, ça passait de tout. Il y avait du ABBA, ma mère était fan de ABBA, c'était vraiment... Il y avait de tout, en fait.
Et vous, à 9 ans, vous écoutiez quoi? Vous aviez un Walkman?
Tout ce que mes parents écoutaient.
Ok.
J'ai été bercé par ça, moi. Oui.
Donc par la variété, ABBA, Johnny, forcément.
C'est ça, Scorpion. Mon père, il adorait les disciplines. Moi, il y avait bien tout ça, quoi. Tout ça. C'était dans la voiture et on chantait.
Et vous chantiez?
Et on chantait, oui, j'y allais. Je me rappelle, il y a les chansons de Scorpion, j'arrivais pas. Bon, j'étais jeune, l'anglais, pour moi, là, c'était pas encore rentré. Et puis, moi, je comprenais, je chantais phonétiquement et je chantais du vent dans les voiles. C'était pas du tout ce qu'il disait, mais
en
ça
fait
rien. Voilà, j'étais, c'est ça, en fait.
Vous chantiez en yaourt. Et pour revenir à Bercy, parce que alors là, j'ose imaginer ce que vous aviez pensé ce jour-là, quand vous chantez un jour sur cette scène de Bercy, ça vous a fait quoi? Vous y avez été là où Johnny, et c'est Johnny Sardou qui ont fait le plus de concerts à Bercy.
Bercy, oui, bien sûr.
Et vous, vous retrouvez dans cette salle immense, je crois qu'on ne voit même pas le bout, enfin j'exagère un peu, mais qu'elle est très très grande cette salle.
Et oui.
Ça vous fait quoi d'être à la place de votre, j'aime pas le mot d'idole, mais du taulier, du patron, votre modèle peut-être?
Oui, c'est bizarre, on a une sensation qui est inexpliquée, qu'on ne peut pas expliquer en fait. Moi, ça m'a fait comme une énergie vraiment positive et j'ai tout donné, quoi, Bercy. En plus, je l'ai fait 30 ans après, je fais Bercy, quoi. Donc, je me dis que les planètes sont alignées et je trouve ça magnifique. Mmh. J'ai bouffé Bercy comme si, comme Johnny l'a fait en 92.
Et le stress, quand même, je suppose? Un peu stressé d'y aller ou...
Stressé, c'est pas le mot.
Ok.
Mais j'avais le trac, forcément. Je dis toujours, si on n'a plus le trac, faut arrêter de faire ce métier.
Okay.
Mais non, bien sûr, j'avais le trac, mais ça s'est bien passé, je veux dire ça. Moi, si tous les gens avec qui je travaille vont bien, moi je vais bien.
D'accord.
Voilà,
c'est une troupe.
C'est ça, c'est une troupe. Et puis ça se l'a fait, on est porté par l'ambiance qui règne à l'intérieur de Bercy. On se laisse aller, en fait.
Dans la chaleur de Bercy, pour c'est reprendre ça. Le titre d'un album de Johnny.
C'était ça, dans la chaleur de Bercy.
De l'album live. Et on va terminer sur votre partie enfance. quand vous chantiez dans la voiture, ou même adolescent, vous aviez déjà cette voix qui venait, ou c'est quelque chose qui est venu, je ne sais pas, un peu plus tard, en sortant, en faisant la fête?
Oui, moi, c'est plutôt en sortant, oui. j'ai commencé à fumer déjà. Donc, après, c'est fait à force de chanter, de m'entraîner, tout simplement. J'ai jamais cherché à avoir cette voix-là, puisque de toute façon, moi, elle est arrivée sur le tard, quand même. Elle est arrivée. Je devais avoir 17, 18 ans. Quand j'ai fini de muer, après 20 ans, c'était bon. Et là, en grandissant, elle est devenue plus
mature.
Ressemblante. Plus mature, oui. Ouais.
Je me souviens d'ailleurs, il y a...
Et plus puissante aussi.
Et plus puissante, oui, on le voit d'ailleurs, et vous le verrez dans la tournée des Zéniths et d'autres salles, mais ça, on vous le dit juste après. Je me souviens, il y a 15 ans, je crois, il y avait une vidéo qui tournait sur Internet où vous chantiez. Je ne sais pas si vous l'avez revue dans ce supermarché.
Si.
Vous chantiez et tout le monde disait « Waouh, il a la
même
voix ». Si,
effectivement. C'est grâce à cette chanson-là, d'ailleurs, que j'ai été découvert à La France en Incroyable Talent.
D'accord, ok.
C'était à la Fnac à Rennes, si je me souviens bien.
Vieille vidéo.
Et j'avais chanté Requiem pour un fou, oui. Ouais.
Les gens étaient...
Et ça fait le tour des réseaux, oui.
Et ils étaient d'une bienveillance. Vous étiez déjà adopté par le public.
Oui, parce que je tournais en Bretagne pendant un peu plus de 17 ans, quand même, déjà.
Mmh.
Je faisais un petit peu de tout. Et sur la fin, on a décidé de vraiment privilégier plutôt les spectacles. D'ailleurs, je me faisais appeler Johnny Junior.
Ah oui, je l'ai noté.
Et je le raconte, ça, dans le spectacle, d'ailleurs, puisque je raconte un petit peu mon parcours à travers les chansons.
Ouais.
Que ce soit les chansons de Johnny, que ce soit mes propres chansons aussi. Donc, j'essaye de raconter une histoire. C'est moi le narrateur de ce spectacle, et du coup, je raconte à travers les chansons
Votre histoire.
Mon histoire, oui.
Et d'ailleurs, vous parliez de la Bretagne, bah, tout commence en Bretagne. Vous avez une enfance normale et vos racines vous ont peut-être donné, est-ce que vos racines vous ont donné cette sincérité, solidité, stabilité, ce qui est rare dans le showbiz? Est-ce que c'est voilà, d'avoir grandi près de la mer, j'en sais rien, en Bretagne, dans votre univers familial, qui vous a fait la personne que vous êtes aujourd'hui?
Ouais, j'ai toujours été un homme de la nature. Alors c'est vrai que la Bretagne, pour ça, c'est magnifique.
Ok.
Voilà, moi, depuis tout gamin, je sortais, j'allais à la pêche, la pêche à pied, je chopais les bigorneaux, tout ce que... J'adorais ça.
Ok.
Et j'ai été éduqué comme ça. Et j'ai jamais oublié, et c'est vrai que quand je fais la rencontre avec Michel Mallory, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais écrire une chanson, s'il te plaît, sur ma Bretagne, comme tu écrirais pour ta Corse?
Oui.
Et il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je crois qu'en même pas une semaine, il me l'avait faite, la chanson.
Elle était faite.
Ouais.
Voilà. Puis la nature, vous aimez aussi, vous êtes lancé avant de devenir chanteur dans une carrière sur le bois. Et menuisier.
Oui, j'étais menuisier, ouais.
Enfin, toujours
menuisier. Je suis toujours menuisier. Ça m'arrive de temps en temps à la maison, je bricole.
Ok. Vous faites quoi?
Moi, je répare beaucoup. Ouais. Je ne peux pas fabriquer plus parce que je n'ai pas le temps.
Et après, en Bretagne, bien, c'est les premiers karaokés. Un jour à Lannion, vos copains vous inscrivent à un karaoké malgré vous. Et quand votre nom est annoncé au micro, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous aviez envie d'y aller ou...
Non, pas trop, non.
Ok.
Là, je n'étais pas du tout de... non, en fait, c'est assez étrange parce que... J'ai un côté très réservé, un peu timide aussi, surtout à ce moment-là, quoi. Et c'était la première fois qu'on me demande de chanter. Et j'étais pas au courant, moi, qu'on m'avait marqué dans mon dos sur un papier.
Le papier qu'on donne au DJ. Ouais.
J'ai un pote à moi qui m'a voilà, gentiment mis mon nom et mon prénom sur le papier.
Ouais.
Et quand j'ai entendu mon nom, voilà. Et la première chanson que j'ai chantée, c'était « Je la crois tous les matins ».
5h40.
Voilà. Et là, il y avait... Vous savez, les karaokés, c'est pas là où c'est le plus calme. Donc les gens y parlent,
et voilà.
Ils boivent des coups et machin, et vas-y que je te... Donc ils écoutent pas vraiment les chanteurs qui chantent. Et là, quand j'ai commencé à chanter, il y a eu un blanc.
Bah oui, en plus ça commence fort, je la crois, sur les matins.
Oui, bien sûr. Ah oui, ça attaque dur. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien, c'est pas bien. Mais là, je me suis dit, il y a eu un moment de doute.
Ouais.
Et puis j'ai continué, et puis ils sont tous détournés, ils ont tous applaudi après parce qu'ils trouvaient ça vraiment étrange. Et je dis,
merci.
Merci, c'est gentil. Et après, je me suis habitué. Et l'animateur de karaoké qui me dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Il me dit, je lui dis rien, je serai à tel endroit. Je prenais ma mobylette et j'y retournais.
Et c'est là où vous devenez Johnny Junior.
Après, par la suite, oui.
Okay.
Dans la suite, j'ai continué avec Yves-Jacques, qui se faisait appeler le Lorme Orchestre à l'époque.
Okay.
Et lui, il tournait tout seul et il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, pour l'instant, rien. Mm-hmm. Il m'a dit, hop là, viens par là et on va tourner ensemble. Et après, j'ai tourné avec lui pendant plus de 17 ans.
Et vous faisiez quoi avant on va y venir, la grande révélation? Des petites salles, des cabarets?
Oui, j'animais, oui. Enfin, on faisait des mariages, beaucoup de on faisait pas en tant que ça de scène pure, de concert. Hein.
Mm-hmm.
C'est sur le tard, ça, qu'on a commencé à faire ça. Je faisais déjà animer des karaokés, je faisais des mariages, tout ça, ouais. Des comités d'entreprise, beaucoup.
Ok.
Oui. Campings.
Des campings, oui, ouais. Les tournées d'été, forcément.
Voilà, les campings. Non, on faisait un peu de tout. Ouais.
Et là, vous commenciez, quelque chose était en train de prendre dans cet univers de...
Oui, parce qu'on s'est aperçu quand même qu'il y avait une clientèle, des gens qui me suivaient un peu partout, qui venaient dans tous les endroits où j'allais.
Ok.
Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et avec Yves-Jacques, on a décidé de monter un truc quand même un peu plus sérieux. Déjà, on rentrait beaucoup moins tard. Et donc, voilà, moi j'avais le foot aussi en même temps, parce que je joue au foot. Donc, voilà, je ne pouvais pas rentrer à cette heure-là. C'était plus possible, rentrer à 6h30 du matin... Je montais le matériel, je démontais le matériel. Enfin voilà, c'était arrivé là, une routine assez intense. Même. Oui. Mais après, on est plutôt passé concert. Oui.
Plus sérieux. Et oui. C'est là où vous faites votre première télé régionale et que vous devenez Johnny Junior.
C'est là que j'ai décidé qu'on a décidé de m'appeler Johnny Junior.
Oui. Ok. C'est mieux d'avoir Jean-Baptiste Guégan après par la suite que Johnny Junior.
Parce Johnny
que...
Senior, je pouvais pas parce que ça l'aurait pas fait.
Oui, ça serait remarqué. Bon, Johnny nous quitte en décembre 2017, et puis je crois que vous refusez l'émission La France a un incroyable talent pendant un moment, c'est ça ?
Bah, j'ai refusé deux fois.
Ok.
La première fois qu'ils m'ont appelé, Johnny était déjà vivant, était encore vivant.
Ouais.
Et par respect pour Johnny, je voulais pas, moi, aller faire comme... je voulais pas qu'on me prenne pour un sosie, voilà, physique ou... Voilà, non. Et je voulais pas d'amalgame, en fait.
Ok.
Et donc j'ai refusé parce que déjà, j'en faisais déjà mon métier, je chantais déjà, donc j'avais pas trop besoin de ça. Et puis, par la suite, ça s'est un petit peu... tout s'est un petit peu... On s'est un petit peu lassé vraiment, de tout ça. Et Johnny est décédé, effectivement, voilà. Donc, et ils m'ont re-rappelé une deuxième fois. Et là, j'ai accepté. J'ai dit, bon, voilà, allez, si vous voulez. Mais j'allais partir en vacances, j'allais à l'île Maurice.
J'ai noté, apparemment, le casting se fait à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais, c'est bien ça ?
Je leur ai accepté. Je leur ai dit, dépêchez-vous, parce que l'avion, il va partir.
Et donc, ils sont venus vous voir à Roissy ?
Ils ont pris les taxis moto, ils sont venus à Roissy Charles de Gaulle, ouais.
Et qu'est-ce que vous avez fait à Charles de Gaulle ?
Là, ils m'ont interviewé, là, dans le... Ouais, à côté. Juste avant de rentrer sur le tarmac. Et puis, ils m'ont dit, merci, c'est gentil. On avait vraiment hâte à ce que ça se passe comme ça. Et on vous donne la réponse, après vos vacances. Donc, j'étais à l'île Maurice. J'ai pu, enfin, aller à l'île Maurice en vacances. Et je suis rentré. Ils m'ont dit, vous êtes prêt à la France à l'incroyable talent.
Bah oui, vous voulez depuis deux ans. Donc...
Oui,
ouais. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
J'étais le plus heureux du monde.
Ah, vous étiez heureux ?
Mais j'étais heureux quand même, parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même une expérience assez inoubliable. Après, c'était dur, par contre.
Qu'est-ce qui était dur ?
Médiatiquement, il faut supporter. Médiatiquement, il faut supporter les choses. Et en plus de ça, j'étais pas habitué du tout du grand écran, moi.
Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit quand on passe de l'ombre à la lumière ? Est-ce que devant... les caméras de télévision, vous aviez un trac immense. Est-ce que vous disiez, bon, moi, je suis ma petite presta et...
Oui, j'avais 10 fois plus le trac que quand je monte sur scène. C'était pas pareil, déjà. Mais oui, là, on est devant des millions de Français qui nous regardent. Là, on rigole plus, là.
OK.
Et puis, il n'y a pas intérêt de louper son passage pour la première fois. Donc, non, c'était vraiment très intense.
Et il se passait quelque chose dans le regard, alors du jury, forcément, mais même du public en face. Vous le voyez ou vous étiez dans votre... Voilà. J'aime pas le mot compétition, mais dans l'émission, dans le déroulé de l'émission.
Alors, j'étais pas trop dans la compétition.
Ok.
J'ai pas pris ça comme une compétition, en fait.
Très bien.
J'ai pris ça comme si j'allais monter sur scène et que je devais faire un spectacle. Et donc, ça, j'ai vraiment pris ça, je dirais, à bras-le-corps, quand même. Hein. Mais comme, je me suis mis une bulle, une carapace.
Ok.
Voilà, et j'étais seul au monde, là. Ouais. Et quand j'ai vu... le jury, Marianne James, Hélène Segarra se mettent à pleurer. J'ai fait waouh là.
Il se passe quelque chose.
Bah oui, il se passe quelque chose, oui. Et c'est inexplicable.
Et quand vous gagnez ça. Quand vous gagnez, c'est quoi ? Il y a des larmes, je me souviens, non ? Vous effondrez, oui. C'est quoi ? C'est de la joie.
J'ai senti mes côtes se rétrécir. Ah ouais, ça me. Comme si j'étais dans un étau. Et j'ai failli m'évanouir.
Oui.
Ils m'ont mis un tabouret pour que je puisse m'asseoir. Non, c'était vraiment quelque chose. Quand David Ginola a cité mon nom, et je savais plus me foutre.
Le public, vous avez déjà accepté, encore une fois. Vous avez remporté la France au Incroyable Talent.
Ils m'ont adoubé. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est une aventure qui a commencé là, à ce moment-là, oui. Médiatique, déjà.
C'est le début d'une nouvelle vie ou pas ?
Oui.
Mais oui. Totalement, artistiquement, forcément, on vous voit dans les élites.
Ça a bouleversé ma vie, forcément.
Ouais.
Oui, on ne peut pas dire non. C'est déjà, médiatiquement, ça a été vraiment très puissant. Mais après, voilà, je pense que la vie est continue. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, notamment avec des connaissances, d'autres artistes.
Et on y vient, vous me tendez la perche parce qu'il y a une rencontre fascinante que vous faites, Michel Mallory. Est-ce que vous avez eu le sentiment de rallumer chez lui l'envie d'écrire, l'envie de... Voilà, de
oui, parce que Michel, il voulait plus... depuis la mort de Johnny Hallyday, il s'était dit, moi c'est fini, j'en les armes, terminé. Il était très attristé par son grand ami de 50 ans quand même, c'est pas rien. Et il voulait entendre parler de personne, que ce soit sosie vocale, que ce soit
sosie,
ce qui gravite autour. Dit non, non, non. Et puis, tout compte fait, il a vu en moi que j'étais vraiment... J'étais pas un usurpateur, tout simplement. Et que j'étais un artiste avant tout. Mmh. Chanteur, interprète. Et ça, il s'est dit, tiens, bon, allez, pourquoi pas. Et pour la dernière fois, bah, on est parti enregistrer à Nashville, d'ailleurs. Ce que Johnny voulait faire, ça.
Retourner là-bas une dernière fois à Nashville, ça c'était votre premier.
Et puis, il m'a écrit cet album, ce merveilleux album de country, folk rock, qu'on a fait.
Et il y a une vidéo, je ne sais pas si c'est avant ou après Nashville, où vous êtes sur un bateau et on voit Michel Mallory en larmes.
Ouais, on est en Corse.
Voilà, vous êtes en Corse. En larmes quand vous chantez une chanson sur le bateau. Là, vous comprenez, je pense que vous l'aviez compris avant, mais il se passe quelque chose, vous dites, mince, je porte plus qu'une voix, je porte une mémoire dans les yeux de ceux qui ont connu Johnny aussi.
Bien sûr, mais j'en suis conscient de tout ça. Après, moi, j'essaye de prendre ça avec beaucoup de recul, quand même, quelque part. Avec beaucoup d'humilité et du recul, surtout, parce que, voilà, j'ai la tête bien faite, j'ai un entourage qui est magnifiquement avec moi, voilà, qui me tient. Et puis voilà, et j'ai vraiment cette chance d'être bien entouré.
Et après le voyage en Corse, là, c'était parti direction Nashville.
Oui.
C'est ça.
Ben oui, parce que je sais que Johnny voulait aller enregistrer un album avec Michel Mallory à Nashville. Et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc, on a voulu perpéter ça et puis voilà, continuer à lui rendre. Ça commençait déjà à lui rendre hommage à Johnny quelque part.
Et puis Nashville, c'est le temple du rock'n'roll. C'est là-bas, non, où Elvis aussi avait enregistré.
C'est ça, Memphis, donc, ouais. Enfin, il habitait à Memphis. Mais
dans le studio, le fameux studio, j'oublie le nom.
Le Sound Imperium, ouais.
Voilà, ça, voilà, ok.
Ouais, il y a les plus grands enregistrés, là. Michael Jackson.
Et votre premier album studio, du coup, c'est à Nashville.
C'est à Nashville, oui.
C'est génial, non
ouais, et puis tout est... Voilà, quand on adore la musique country, comme moi, j'adore... Là-bas, c'était Euro Disney pour moi.
Ok. Quel style, tiens, quel chanteur country on dévie un peu, qu'est-ce que vous appréciez?
Johnny Cash.
Ah, j'adore aussi. Fantastique.
Bien sûr, puis il y en a d'autres.
Il a tout chanté, hein, Johnny Cash. Hein. Il a repris, déjà, il y a ses chansons, puis il a repris tous les standards
tous
de
les
la
standards,
country.
Ouais. Ouais.
Ok.
Ah, mais c'est magique quand on sait que tous ces artistes sont rentrés dans ce studio-là, enregistrés là. Je veux dire, waouh, j'en fais partie.
Votre premier album.
C'est beau, je trouve, c'est beau. Pour le premier album, oui.
Et là, apparemment, alors j'ai noté, vous allez me dire si c'est vrai, je me suis renseigné, il paraît que Michel Mallory vous demande de chanter du bout des lèvres à ce moment-là. C'est-à-dire de ne pas forcer et d'être tout simple.
Oui, parce que moi, je savais, j'avais tendance à envoyer le bâton tout le temps.
Ok.
Et donc, Michel m'a vraiment appris à me poser et à me dire, tu sais, quand tu interprètes une chanson, il faut la faire du bout des lèvres de temps en temps. Après, tu peux envoyer le bâton. Ah, et il me dit, Johnny savait très bien faire ça. Il dit, ok, d'accord. Bah, je vais faire pareil, alors. Et puis ça va, ça l'a fait. Ouais, j'ai avalé ses paroles.
Vous avez avalé ses paroles. Et puis Johnny, paraît qu'il faisait qu'une prise. Et après, il se barrait. C'est Jacques Revaux qui a rencontré.
Oui, beaucoup. Moi, je suis un peu pareil aussi.
Ok. La première,
je travaille pareil sans faire exprès. Non, non, parce que je ne savais pas comment Johnny travaillait, moi.
Ok.
Je n'étais pas au courant de tout ça. J'ai parlé longuement avec Michel Mallory. Et puis... Je crois que c'est un jour, quand ils sont allés avec Michel, ils sont allés voir Joe Cocker, spectacle.
Oh, magnifique.
Et là, Johnny, il dit à Michel, il dit « Waouh, comment il fait pour envoyer ?» Et il a pris les mêmes gestes que Joe Cocker quand il envoyait comme ça.
Ouais.
Et du coup, il a pris ça de Joe Cocker et quand il est rentré et quand il chantait, il s'est dit « Tiens, c'est comme ça que je vais faire ».
Et Joe Cocker, il vit sa musique quand on le voit fermer les yeux, chanter « Change My Heart » ou « N'oubliez jamais », fantastique. Et donc vous avez chopé ça
J'ai chopé tout ce que Johnny faisait, je chopais, ouais.
Ok.
Ah ouais. Mais c'est un vrai prof de chant. Hein.
Johnny Hallyday ?
Ah oui.
Ok.
Oui. Ah oui, c'est impressionnant même.
Il y a des chansons...
Il y a cette puissance.
Ouais. Il y a la puissance et justement, il y a des chansons qui sont très dures à chanter... de Johnny, tiens, je dévie un peu, mais l'envie, il paraît que c'est la chanson une des plus dures à chanter, parce qu'on est toujours comme ça, à rembrayer sur les autres paroles.
Mais elle n'est pas facile.
Elle n'est pas facile.
Alors, c'est pas la seule, mais c'est vrai qu'elle est très dure à chanter, mais pourtant, c'est ma préférée, moi. Comme je sais qu'il aimait cette chanson aussi, ça lui collait bien à la peau, ça, Johnny.
Ok.
Parce qu'il fallait lui donner l'envie d'avoir envie, ben moi, je suis un peu pareil aussi. Oui.
Magnifique chanson de Goldman sortie sur l'album Gang, je crois.
Gang, c'est ça, oui.
Et vu que vous étiez à Nashville, on y retourne aussi, on est dans les chansons là. Est-ce que vous vous sentiez pas un peu comme dans la chanson Cadillac, tiens, Ce petit gars né près de Toulouse, alors vous, c'est en Bretagne.
Sûr.
Et partir en Amérique, fonder Détroit, ben vous, faire votre premier album. Belle chanson, ça aussi.
C'est une magnifique chanson, oui. Histoire vraie.
De Cadillac, oui, oui.
Bien sûr.
La capitale des...
Du moteur et du rock'n'roll.
Et du rock'n'roll.
Ouais. Ouais, c'est ouais. Vrai, oui.
Il y a tout ça qui se mélangeait, alors, quand vous êtes parti hein, en Amérique.
Ben oui, tout ce qu'a vécu Johnny, il a vécu son rêve américain aussi, quelque part. J'ai roulé à Tampa aussi, j'étais en moto, j'ai roulé à Tampa, tu vois. On a pris les motos, on l'a fait, quoi. Donc, ouais, j'ai un petit peu continué à faire un peu la même chose.
Et c'était votre rêve aussi.
C'est mon rêve aussi, mais ouais. Bien sûr, j'adore tout ce qui est américain, donc
okay.
Que ce soit les bagnoles, les motos.
La bouffe.
La bouffe un peu moins.
Un bon steak frites.
Des ribs.
Les ribs. Il y a autre chose qu'américain à la base, c'est le rock'n'roll. On va peut-être un peu enchaîner. Quand on voit qu'aujourd'hui, bien, le marché est dominé par le rap ou d'autres, l'urban variété, comme on dit. Quelle place reste-t-il pour le rock'n'roll en France, pour vous ? Vous faites du rock'n'roll sur scène. Vous faites vos chansons, les chansons de Johnny, bien sûr. Mais comment vous sentez votre place ? Qu'est-ce qui reste au rock'n'roll aujourd'hui ?
Okay, bah, il reste moi, déjà.
Ouais.
C'est déjà pas
vrai,
mal.
Il y a pas grand.
Non, mais je le dis, tant que je serai là, le rock'n'roll restera. Oui. Après, je suis pas le seul chanteur de rock, quand même. Il y en a d'autres.
En France. Et qui vient vous voir aujourd'hui ? Ce sont des. Alors, vous m'avez dit, il y a votre public, des admirateurs de Johnny. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens, des jeunes, qui redécouvrent le rock'n'roll grâce à vous ?
Il y a, oui, bien sûr, je pense. Oui, oui. Bah, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Moi, je vois des gosses, je dois avoir 7-8 ans.
Oui.
Et ils sont là, ils sont attirés par ça. Ils sont aux anges. Moi, je trouve ça formidable. Il y a toute génération, moi, dans mon public. J'ai cette chance.
Et c'est pour durer, c'est la meilleure des choses, d'ailleurs.
De 7 à 77 ans.
Oui, pour parodier un autre ami de Johnny. Et peut-être que dans la tête de ses petits-enfants, bah, il se passera la même chose que dans la vôtre en 92.
Bien sûr, bien sûr. Et moi, je dis tant mieux. Tant mieux. Si un jeune, plus tard, quand il sera plus grand, moi, je veux faire comme Jean-Baptiste Guégan, bah, je serai le plus heureux.
Du rock'n'roll, ben je comprends. Votre album, De l'ombre à la lumière, donc il est sorti il y a quelques mois, presque un an, c'est un album très personnel. Est-ce que c'est le disque où vous êtes le plus livré, finalement ? On va venir sur certaines chansons dont vous avez enregistrées. Voilà, est-ce que c'est peut-être un peu plus vous que les précédents ?
Oui, je pense que j'ai... Oui, alors déjà, je pense que je me suis vocalement un peu surpassé de temps en temps sur certaines chansons.
D'accord.
Il y en a qui montent beaucoup. Mais non, puis j'ai voulu me surpasser un peu musicalement, oui. Oui, faire un style un peu différent.
Ok.
Un peu plus pop-rock.
Pop-rock.
Oui.
Ben, on l'entend notamment dans Ma Délivrance.
Bien sûr.
C'est une chanson sur quoi ? Sur les failles, sur des combats. En plus, dans le showbiz, je me doute, on le sait, il y a...
C'est les deux, c'est voilà. Les deux, oui.
Elle raconte quoi, cette chanson ?
Ma Délivrance, c'est surtout ma femme.
Ok.
Oui, j'ai rencontré ma femme et elle m'a délivré sur pas mal de choses, notamment sur beaucoup de démons que j'avais. Et elle m'a calmé là-dessus. Ouais, ouais. Attention.
Attention. Est-ce qu'il faut des démons alors pour être artiste, tiens ?
Je pense que ça a participé. Oui, bien sûr, ça a joué beaucoup. Oui, oui. Vous savez, on est beaucoup d'artistes comme ça, mais je pense que derrière tout artiste, il y a quand même un écorché vif quelque part. Et moi, à travers mes chansons, j'aime raconter mon histoire et que les gens s'y retrouvent quelque part aussi dedans. Je ne suis pas le seul à être comme ça.
Bien sûr. Dans ce spectacle que vous faites d'ailleurs, bah, moitié 50-50, Johnny, et puis vos chansons, vous tracez un fil.
C'est ça.
Une histoire. Ouais. Ma délivrance. Ouais. Très jolie chanson. Et puis après, bah voilà, je l'avais noté aussi, vous dites que c'est votre femme, votre épouse, votre délivrance. Est-ce que maintenant vous pouvez vous dire on peut réussir dans la musique sans un socle affectif solide, tiens?
Je sais pas.
Une épaule sur qui s'appuyer. On le sent dans l'album, c'est pour ça que je
vous en parle. Je pense qu'on a besoin, oui, on a toujours besoin de quelqu'un à côté de nous, ouais. Bah, derrière un homme, il y a toujours une femme.
Ah oui, j'ai déjà entendu derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, ou chaque homme, il y a une grande femme.
Oui, oui.
Ok.
C'est vrai.
Et oui. Puis dans cet album, il y a aussi Lettre à ma voix. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Je crois que c'est Patrick Fiori qui vous l'a donnée.
Oui, en fait, cette chanson, elle existe depuis quand même pas mal de temps. J'avais, je venais d'enregistrer mon premier album.
Ouais.
Et donc, cette chanson-là, je ne sais pas pourquoi, elle est passée. C'est Icar qui avait écrit la chanson. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, elle est passée comme ça, à la trappe. Et puis, Patrick Fiori fait son album avec Icar à un moment, puis il écoute cette chanson. Il dit à Icar, je ne peux pas chanter ça, moi. Ce n'est pas fait pour moi, c'est fait pour Jean-Baptiste. Et il dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et il m'a appelé un soir. Patrick Fiori m'appelle, il me dit, écoute, JB, il y a vraiment une chanson, là. On va te la passer, tu vas l'écouter. Alors, tu fais ce que tu veux, si tu la veux, tu la prends, voilà. Mais si tu la veux pas, c'est pas grave, tant pis. Et du coup, j'ai écouté cette chanson, j'ai dit, c'est magnifique, moi. Bah, il parle de Johnny Hallyday, mais sans citer de nom, est-ce que c'est un hasard ou est-ce un rendez-vous? Bah, je trouvais qu'elle était faite pour moi, cette chanson.
Ouais.
Du coup, voilà, c'est devenu ça.
Puis même vous, vocalement, c'est toute l'ambiguïté de la chanson qui est magnifique dans, oui, dans cette lettre à ma voix.
Mmh. Ben oui. Et un message à Johnny.
Un comment?
C'est un message à Johnny.
C'est un message à Johnny qui vient vous voir, je l'espère, tous les soirs, dans le, on l'a dit en début d'interview, ce halo du projecteur. Et il y a Renaud aussi qui vous a écrit une chanson. Ben, ça s'appelle une chanson. Oui.
Ça s'appelle une chanson, oui. J'ai fait une chanson.
Alors, ça comment ça se passe de travailler? Comment ça s'est fait, cette rencontre avec Renaud?
Non, je ne le connaissais pas, Renaud. Et c'est vrai que il adorait ce que je faisais, Renaud. Il me dit, bah, tiens, je vais lui écrire une chanson. Et c'est une chanson qui parle surtout de mon public, quoi. Mmh. Et moi, je remercie mon public. Parce que c'est quand même eux qui m'ont fait, quelque part.
Bien sûr.
C'est grâce à eux si je suis là. Et que je fais ce métier-là, toujours. Mais c'est vrai que Renaud, voilà, il avait compris, il a tout compris de A jusqu'à Z, qui j'étais. Mmh. Et on a fini par se rencontrer au restaurant sur Paris. Mmh. Juste allé manger. D'ailleurs, c'est un de mes guitaristes, qui est guitariste à Renaud aussi, Michael Wayon, qui m'appelle et qui me dit, j'organise une bouffe avec Renaud. Donc, il me dit, attention, je te préviens, Renaud, ça dure soit 5 minutes, s'il est intéressé. Sinon, ça dure 3 heures. J'ai eu cette chance, ça a duré 3 heures.
Ça a duré 3 heures.
On a mangé ensemble, on a bien rigolé. Et puis on a parlé de tout. Ouais.
Et à la fin, comment ça s'est passé, cette création? Vous êtes retrouvés pour écrire une chanson ou pas?
Non, pas du tout. Non, il est rentré chez lui, je suis rentré chez moi.
Ouais.
Ouais.
Et il vous a renvoyé la chanson plus tard ou elle était déjà...
Elle était déjà sortie, la chanson.
D'accord.
Oui.
Ok.
Oui.
Et déjà prête.
Mais bon, la rencontre s'était pas faite et puis on a fini par quand même se rencontrer, enfin quand même.
Enfin. Il y a aussi une autre chanson parce que dans cet album, c'est vous, c'est la voix, vous l'avez dit, Ma Délivrance, avec votre épouse et puis voilà, les démons, etc. Il y a aussi, je voudrais juste te dire... Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de pudeur dedans. Mmh. C'est dur de dire « je t'aime ». Où est-ce que vous avez voulu nous emmener dans cette jolie chanson?
Ben, c'est compliqué parce que dans ce métier-là, on est, j'ai un peu la même chose que Johnny quand il est avec son fils David. C'est un peu la même chose. Moi, mes enfants, c'est pareil. Avec ce métier-là, je n'ai pas cette chance de les voir très souvent. Voilà. Et... on est souvent loin, quoi. Donc, une façon à moi de leur dire que je les aime, fort. Mmh. Et plutôt que de le dire ouvertement, parce qu'on a toujours un peu...
C'est dur.
Oui, c'est dur. Je le fais en chanson. C'est un père qui dit à son fils qu'il faut faire très attention, voilà. Mmh. Qu'il l'aime très fort, surtout.
Ouais. Alors, la réception? C'est bien passé?
Oui, plutôt bien.
C'est plutôt bien passé. tiens, justement, quand on a explosé médiatiquement, comment on se protège? On protège sa famille, maintenant vos proches, votre épouse, ça a été compliqué? Tout est arrivé d'un coup, peut-être?
Bah, tout est arrivé d'un coup, mais enfin, j'ai pas... Moi, ça a toujours été une devise de protéger les enfants, médiatiquement surtout.
Ok.
Oui. Ah oui, ça, c'est important.
Des gens ont cherché à savoir? Enfin,
beaucoup
de gens fouillaient.
Oui. Mais je ne dis rien.
Bah, vous avez bien raison.
Et ça regarde personne. Je veux dire, ça fait partie de ma vie, c'est intime.
Et ça vous inspire quand même un petit peu dans les chansons. Et ça, c'est ça qui est beau.
Mais bien sûr.
Que les gens doivent retenir.
C'est ça qu'ils doivent retenir, oui.
De votre privé. J'aime beaucoup cette chanson, je voudrais juste te dire. Des projets. Ah oui, alors ça, je me suis dit, tiens. Des projets, vous en avez sans doute des nombreux. Il y a la tournée, puis après, on verra, je l'espère, plus tard un autre album. Mais est-ce que vous avez prévu un jour, s'il vous plaît Jean-Baptiste, de tenter la traversée mythique de Johnny, comme il avait fait au Parc des Princes, de traverser la foule comme ça et de monter sur scène?
Mais je descends déjà.
Vous le faites?
Je descends déjà sur scène, de la scène.
Ok, ah ben,
sur, mais je le fais
j'ai
pas
eu
sur,
la chance
je,
de vous
je
voir.
Je le fais sur Que je t'aime.
Donc, et de faire la traversée.
Ouais.
Imaginez à Bercy, là, vous, vous passez comme ça au milieu
ouais,
du
ouais,
public.
Ouais, bah, oh à Bercy, je l'ai fait d'ailleurs quand j'ai fait Bercy. Et que je suis descendu, je ne sais plus sur quelle chanson, c'était sur L'Envie, je crois. Ouais.
Ouais,
ouais.
Vous avez traversé Bercy.
Et je suis descendu, ouais.
Oh là ouais. Et alors
bah, génial.
Génial.
Oui, oui.
Pas la peur de la foule, parce qu'on se souvient tous de la bousculade énorme de Johnny.
Non, mais les gens sont relativement sympas. Il n'y a pas de. Bon, voilà, ici.
Ils sont contents.
Il faut... Oui, ils sont très contents, les gens. Mais c'est vrai qu'ils sont sympas, à condition d'être gentils avec eux. Voilà. Puis moi, ils me font pas peur. Moi, je descends. C'est rock'n'roll ou pas?
Ah, oui, oui, oui. Vous pétez les guitares? Je vous ai jamais vu
non,
encore.
Non, par contre, non, je respecte beaucoup ouais, les guitares.
Ça aussi, je suis bien d'accord ouais. avec vous. Parce qu'à la fin, quand Johnny, encore une fois, 93, il explose la guitare sous le bon temps du rock'n'roll. Et putain, trois soirs, trois Fender ou je sais pas.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'après, on lui a dit d'arrêter de faire ça.
Oh, il avait déjà 50 ans, donc c'était mal barré.
Ouais, ouais, mais bon. Ouais, mais ça, c'était Johnny. Dans tous ses excès.
Dans tous ses excès. Eh bien, vous, c'est Jean-Baptiste Guégan qu'on pourra revoir. Alors, je me suis noté, vous êtes en tournée quand même partout en France. Mais il y a les Zéniths le 18 mars à Bordeaux, le 19 à Toulouse, le 22 mars à Dijon, le 25 à Lille, on viendra vous voir, le 26 à Paris, au Dôme de Paris, qui est quand même... Ça va être une grande et belle salle, le Dôme de Paris.
Anciennement, le Palais des Sports, oui.
Ouais. Et le 28 à Lyon.
Et le 28 à Lyon, oui.
Voilà, et après, repos.
Après, fini la tournée.
Fini la tournée.
Enfin, je peux pas m'arrêter longtemps, moi.
Ouais. Tu voles en avion.
Je vais profiter un petit peu de la famille.
Oui.
Parce que c'est important. Et après, bah, je rattaque.
Ah bah avec...
Je continuerai.
On a hâte, puis vous viendrez nous voir.
Jusque fin 2027, encore, il y a des choses à faire.
Il y a des choses prévues.
Oui.
Bon, ça, c'est cool. En tout cas, merci Jean-Baptiste.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes le bienvenu chez Mélodie, puis à très bientôt.
À bientôt.
Mélodie, la radio vintage. Forever.